Apple Différemment est un podcast de vulgarisation du monde Apple. L'idée, c'est de vous simplifier les termes techniques qui nous compliquent souvent la vie. On va parler d'usage, de besoins, d'envie et de notre passion pour Apple à travers ses produits, ses services et son histoire. Bonjour et bienvenue dans Apple Différemment. Je suis Matt, alias Prof du Web, et je co-anime cette émission avec Audrey, qui est formatrice, autrice, youtubeuse Apple. Bonjour Audrey, comment ça va?
Salut Matt, ça va très bien. En vacances, comme toi, je pense. Donc c'est cool.
Alors ouais, c'est ça. Toi, tu sors de ta sieste et moi, je viens de me lever. Alors ça va être un épisode plutôt calme?
Ouais, un slow épisode, c'est ça.
Épisode. Quelque chose qui fait du bien quand on se réveille, c'est de voir toutes les notes 5 étoiles qu'on a reçues. On a reçu beaucoup dernièrement des 5 étoiles sur iTunes. Est-ce que tu veux les passer pour remercier tout le monde?
Ouais. Alors, on a... Alors, comment je vais prononcer ça? Yurkut. Qui nous dit « Un podcast convivial, international, bien renseigné et sérieux dans ses propos, sans prise de tête. Des articles convaincants. Je commande l'Apple Watch dans quelques heures. Continuez, on vous aime. »
Ouais, ça, je pense que l'Apple Watch, on a fait des ventes, je pense, chez Apple. Ouais, c'est ça. Ouais.
C'est clair, j'ai eu plein de retours. Et j'ai une copine qui a écouté l'épisode il y a quelques jours encore et elle m'a dit « Ah, mais tu m'avais déjà convaincu, mais alors là, je vais l'acheter, c'est obligé, quoi. » Ouais, il va falloir penser à toucher un petit bénéfice là-dessus, quand même.
Ouais, je pense que ça n'arrivera jamais avec Apple, mais bon.
Non, ça n'arrivera jamais, c'est mort.
On peut espérer.
Alors, je te laisse lire le suivant.
Oui, de Yoskiz. Yoskiz, ça se dit mieux que ça. Alors, le titre, c'est « Belle découverte ». C'est une belle découverte, ce podcast, que je ne connaissais pas. Je connais la chaîne YouTube d'Audrey Coulot, mais pas du tout Mathieu. Je trouve le format de podcast très bien. Vous n'en faites pas trop. Le duo est très bien. Bonne continuation. Alors, la personne veut vraiment nous dire qu'on fait très bien, juste assez, tout est parfait. C'est comme ça que je l'interprète, hein, c'est ça?
Ouais, ça fait super plaisir parce qu'on fait vraiment ce podcast pour le plaisir, justement. Il y a une bonne entente entre nous et que ça se ressente quand les gens nous écoutent, c'est vraiment... Ben, c'est mieux que ce qu'on pouvait espérer, quoi. Donc, c'est cool. Il y a Timou qui nous dit « J'adore, je viens de découvrir ce podcast, je ne vais pas épiloguer pendant 30 ans. J'adore, c'est simple mais très efficace, vous dégagez une atmosphère joyeuse, simple, passionnée. Hâte au prochain épisode. »
Et puis on termine avec Cerveau Geek qui dit « Un podcast parfait ». En fait, le titre c'est « Parfait ». « Un podcast parfait pour les fans d'Apple, mais pas que. On y apprend beaucoup de choses sur les technologies et sur l'informatique. Je recommande ce podcast à tout le monde avec un emoji victoire et un clin d'œil. Faut les nommer, les emojis. C'est compliqué en audio.
Et Cerveau Geek, d'ailleurs, je crois qu'il a un podcast Apple aussi.
Oh.
Qui fait en solo. Ouais, je crois que c'est un podcasteur aussi. Donc, on va vous mettre le lien. J'ai pas encore écouté, mais je crois qu'on a échangé sur Twitter et qu'il a un podcast.
Cool.
Donc, c'est cool. Ouais.
Ouais. Alors, cette semaine, quoi de neuf chez Apple? Dans l'émission, on va parler la thématique d'Audrey cette semaine. Ça va être l'iMac. Il y a une nouveauté dans l'iMac cette semaine. Alors, on va parler de l'histoire de l'iMac. Moi, j'ai un article avec un petit peu d'histoire. Je vais agrémenter ce que Audrey a préparé parce que, en gros, paresseux, je suis en vacances et je n'ai pas fait grand chose. En fait, j'ai préparé quelques trucs, mais je les ai pas assez bien faits pour que ça mérite que je les fasse en émission. Je les ai pas assez bien préparés. J'avais notamment l'ambition de parler des femmes chez Apple et je l'ai pas assez bien fait. Et comme je fais de l'appropriation, je veux bien le faire. Alors ça, on se reprendra dans un prochain épisode. Mais sinon, dans les nouveautés Apple, ben il y a une personne importante de chez Apple qui quitte cette semaine. Ça a été annoncé. Phil Schiller qui s'en va de chez Apple. Phil Schiller, c'était le grand Manitou du marketing qui s'en va de chez Apple. Alors, le board, une vingtaine de personnes qui constituent les patrons, les principaux d'Apple, ben lui en faisait partie. Il laisse sa place à Greg Joviask qui va prendre le relais, mais qui est là de chez Apple depuis longtemps quand même. Ce qui m'attriste un peu, c'est qu'on a dans le board, je pense qu'il y a juste 4 femmes. Et c'est majoritairement des hommes. Je trouve ça un peu dommage qu'ils n'aient pas pris le temps de regarder s'il y avait des candidatures féminines qui auraient pu être intéressantes pour essayer d'avoir une certaine équité. Une fois que c'est dit, on salue Phil Schiller qui va devenir un Apple Fellows. Alors un Apple Fellows, c'est une personne qui est comme le temple de la renommée pour la NHL, ceux qui connaissent ça, qui va rester dans un club fermé comme Bill Atkinson, on vous en avait parlé, Alan Kay, Guy Kawasaki ou Guy Kawasaki, c'est comment vous voulez dire, et Steve Wozniak, c'est des pontes de la marque qui vont avoir ce titre honorifique, mais qui est accompagné aussi de certains budgets pour faire des projets et qui va représenter un peu comme ambassadeur de la marque pour plus tard. Bizarrement, en lisant l'article, je me suis aperçu que Johnny Ive fait pas partie des Apple Fellows. Je trouve ça particulier, mais bref. Phil Schiller nous quitte. Ouais. Et ça faisait une trentaine d'années qu'il était chez Apple, fait qu'on peut pas dire que ça a été juste un touriste de passage.
Oui, oui, et puis de toute façon, les années passent et à un moment, les gens ont certainement envie de faire autre chose ou de prendre la retraite. Enfin, quand tu vois les âges qu'ils ont maintenant, il y a un moment, c'est sûr qu'il faut des remplaçants, quoi. Donc, ce que j'espère vraiment, c'est qu'au fur et à mesure, là, de voir partir quand même les têtes d'Apple comme ça, enfin, ceux qui ont quand même fait évoluer toute son histoire, que la marque garde son identité, quoi. J'espère ça. Moi, après qui fait quoi, l'important, c'est qu'Apple garde sa vision de l'informatique, quoi.
Ouais, qui est assez unique, hein, quand on... Il n'y a pas beaucoup d'émissions sur Asus, il n'y a pas beaucoup d'émissions sur Samsung, mais il y en a beaucoup sur Apple, il y en a beaucoup sur Microsoft. C'est quand même des compagnies qui ont une histoire assez importante dans le domaine des technologies, tu as raison. Si on peut garder un peu ce qui a fait le succès d'Apple, ça serait chouette. Mais faut ouvrir la place à des jeunes, mais ce qui m'intrigue, c'est que la personne qui va remplacer Phil, c'est Greg Joziak, et il n'est pas très jeune lui non plus, alors je ne sais pas ce que ça va donner. On va voir. Dans les actualités que j'ai pris pour cet épisode, Apple a racheté MobiWave. MobiWave, c'est quoi? C'est une plateforme qui s'occupe de faire des transactions par carte de crédit. Alors typiquement, vous prenez votre iPhone, vous préparez la transaction, vous tapez la carte de crédit de l'autre personne sur votre iPhone et la transaction va se faire. Alors ça marche pour Visa et Mastercard. Pourquoi je l'ai pris? Parce que MobiWave, c'est tout simplement une compagnie de Montréal. Alors, on était assez contents de voir ça. J'étais surpris même qu'il n'y ait pas déjà des choses développées chez Apple pour ça. Le paiement par carte de crédit va pouvoir se faire.
Ouais, je crois qu'il y a un petit boîtier qui existe que tu connectes à l'iPhone.
Square.
Ouais, un petit boîtier blanc, là.
Ouais, c'est ça. Ça a été fait par un des fondateurs de Twitter, Jack Dorsey. Ça va très, très bien. Moi, j'avais les premières versions de Square. C'est un espèce de petit adaptateur qu'on mettait dans le port jack du téléphone. Et on passait la carte de crédit. Ça prenait pas beaucoup de frais. Et ça faisait quelque chose de super professionnel quand tu avais un client. Tu passais sa carte de crédit, ça envoie toujours une belle facture directement dans le courriel. Et tu vois, ce mode-là, Square, ça s'est démocratisé parce que maintenant, tu as les espèces de docks que tu peux mettre pour les iPads. Où tu encastres ton iPad dedans et tu vas avoir une borne sans contact. Et j'en ai vu de plus en plus dernièrement, probablement dû à la COVID, beaucoup de bornes Square qui sont arrivées sur le marché pour le paiement sans contact. Mais je pensais vraiment qu'Apple avait déjà quelque chose de prêt. Tu sais, ils ont déjà une carte de crédit. Ils sont quand même avec des majeurs dans le domaine. Je pensais qu'ils avaient préparé quelque chose. Et ben non, ils ont acheté MobiWave qui le fait. Ça fait peut-être même un peu écho au fait que Tim Cook a été en audition devant la commission antitrust américaine. Il était avec Mark Zuckerberg, Jeff Bezos et il y avait Facebook, il y avait Amazon, il y avait Apple et il y avait le quatrième, c'était GAFA. Alors, GAFA, ça va être Google, c'est ça, excuse-moi, je réfléchis en même temps. Quand il a été devant la commission antitrust, ben ça a été lui qui s'est fait le moins bombardé possible. Et il a expliqué pourquoi il pense que Apple s'est fait moins bombarder de questions que Facebook, par exemple. C'est que quand eux autres, ils rachètent des startups ou des entreprises, c'est pas pour couper le marché. comme le ferait Facebook. C'est vraiment pour tout simplement ajouter des nouvelles fonctionnalités. Bon, on l'a vu, Siri, ça a été une fonctionnalité qui a été achetée. Il y a plein de fonctionnalités comme ça de compagnies qui ont été achetées et qui ont été intégrées dans l'expérience utilisateur. Puis je trouvais que MobiWave, ça faisait le bon lien avec cette présence antitrust là, de présence à la commission antitrust de Tim Cook, parce que ils l'ont acheté il y a pas longtemps. Est-ce que Tim Cook se défendait de faire, c'était exactement ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils achètent pas pour tuer un marché, ils achètent pour ajouter des fonctionnalités. C'est un peu ce que reproche la commission américaine aux GAFA. J'étais surpris aussi de voir juste les GAFA et pas les GAFAM, parce que quand on parle de grosses compagnies tech, on parle évidemment de Google, d'Apple, Facebook, Amazon, et puis il y a toujours Microsoft. Et puis devant la commission américaine, j'ai pas entendu parler de Microsoft. Alors peut-être que je me trompe, vous me le direz dans les notes de l'émission. Mais j'étais surpris de voir Apple devoir se défendre devant les commissions. Est-ce que tu penses, toi, que Apple fait un... par rapport aux trois autres que j'ai nommés, Facebook, Amazon, et puis Google... est vraiment un grand méchant par rapport aux trois autres? Toi, ta perception, là, sans fait, sans rien, ta perception serait quoi?
Bah écoute, dernièrement, alors, il faut que je te raconte une petite histoire.
Oui, c'est les meilleurs.
L'autre soir, j'étais dans mon lit et tout, et j'étais sur Instagram, et je demande à ma copine, donc Instagram était ouvert sur mon téléphone, et je lui demande, ah tiens, demain, il faut que j'aille acheter des planches, enfin, est-ce que tu connais un magasin de bricolage pas loin? On discute comme ça, mais je sais pas, une minute de magasin de bricolage. Je retourne sur Instagram et dans les minutes qui ont suivi, j'ai eu une pub pour Castorama, une pub pour Leroy Merlin et une pub pour Bricomarché, sans te mentir. Et tu vois, je me dis, là, Instagram, donc ça veut dire qu'ils utilisent notre micro, parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive, ce genre de choses, ils utilisent le micro qu'on autorise, bien sûr, pour nos stories, on est obligé de donner accès à notre micro, au micro de l'iPhone. Donc ils utilisent quand même notre micro pour écouter ce qu'on dit, et c'est pas de la parano, hein. Je l'ai fait avec j'ai fait des tests avec ma sœur quand on se parle sur Messenger, c'est pareil. On parlait de cours d'espagnol sur Babel, et puis l'après-midi même, je vois une pub pour prendre des cours d'espagnol sur Babel. Donc il y a quand même une écoute qui est faite à notre insu par donc Facebook, Instagram, qui a été racheté par Facebook. Donc je dirais des plus grands méchants, si on doit les classer. Pour moi, Facebook, c'est quand même le numéro un, parce qu'il détourne nos données, alors que nous, on donne accès à un micro pour publier une vidéo, pas pour que le micro soit en écoute permanente. Et je pense que même s'ils se font... Mark Zuckerberg passe pas mal de temps devant les tribunaux, mais je pense qu'à un moment, il va vraiment falloir qu'ils arrêtent ça, quoi. Je trouve ça insupportable. Et tu peux pas utiliser leurs produits. Tu vois, Instagram, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée couper l'accès au micro. Et sauf que le lendemain, je voulais publier une story, j'ai pas pu, parce qu'il faut que le micro soit activé, même pour publier une photo. Donc il y a des choses qui sont pas claires, en fait, là-dedans. Après, pour revenir aux sociétés qui sont rachetées, comme tu dis, c'est vrai que si Apple transforme ses entreprises en services ou en fonctions, déjà, c'est une belle fierté pour la personne qui a créé ce service. Par Apple, c'est quand même... c'est toujours plaisant. Ouais. Après, j'espère vraiment qu'un jour, on découvrira pas qu'Apple nous pompe nos données depuis 20 ans sans... Parce que moi, je crois clairement et sincèrement que c'est quand même une boîte qui est assez honnête. Et j'espère ne pas me tromper. Et je préfère y croire en me disant, je confie mes données à Apple parce que je crois en eux. Je sais pas toi où t'en es par rapport tes photos, enfin tout ce que tu peux confier à Apple. Est-ce que tu te dis que c'est utilisé à notre insu? Est-ce que tu crois vraiment en leur politique de protection de la vie privée?
Je confie tout à Apple. En fait, je confie beaucoup de choses à Google, je confie beaucoup de choses à Apple, beaucoup moins sur Facebook. Je fais quand même, comme toi, peut-être plus attention à Facebook, parce que l'histoire nous montre que ils n'ont pas vraiment de scrupules par rapport à nos données. Alors, si le passé est garant de l'avenir, bien souvent, c'est ce que je ressens. Par contre, pour Apple, c'est probablement la compagnie dans laquelle je fais le plus confiance. Tu vois, je lisais encore ce matin l'article, parce que sur le board de Microsoft, je lisais que Catherine Adams, c'est elle qui s'occupe de toute la partie avocat, toute la partie légale, et tu sais, c'est pas n'importe qui, cette personne-là, dans l'article que je prépare pour une prochaine émission, tu sais, elle a avancé beaucoup de choses, elle a gagné des renommées incroyables de la part d'Obama. Alors, tu sais, je veux pas croire qu'une personne, puis elle a fait des déclarations incroyables en disant qu'elle est tellement bien, que Apple est tellement sincère et tellement extraordinaire. Alors, je veux pas croire que, toute la parce que tu sais, le marketing d'Apple est quand même assez basé sur la protection des données. Ils en font des affiches, ils en font beaucoup de publicité. Je serais très déçu. Oui, c'est ça, mais je serais très déçu. Alors je me dis, tu peux pas baser tout ton marketing sur une orientation. Puis tu sais, tu te rappelles hein, quand j'avais fait la bio de Tim Cook. Ça a l'air d'être une personne sincère, de toute façon, de son histoire, de sa vie. À un moment donné, ouais. Tu peux pas. Ils seraient fait découvrir bien avant ça qu'ils étaient des fourbes, qu'ils étaient des menteurs. Fait, j'y croirais pas que. En tout cas, on verra, hein, mais pour le moment, je fais une entière ouais. confiance à Apple. Ouais.
Mm-hmm. Oui, c'est ça. Moi, c'est vrai que mes clients me demandent souvent mais vous leur faites confiance parce que c'est tous les mêmes et tout. Et pour moi, Apple, c'est une entreprise qui se démarque. Mais après. Ben, c'est sûr qu'on ne peut pas garantir à 100% qu'il ne se passera jamais rien ou que nos données ne seront pas utilisées à mauvais escient. On peut pas, enfin, c'est impossible de savoir. Et d'ailleurs, même Facebook, au début que le service est arrivé, pour nous, ça coulait de source que c'était quelque chose de... Quand on met une publication entre amis, ça reste entre amis, normalement. Mais après, quand tu vois des pubs ciblées par rapport à ta ville, ou, ben, y a plein de choses, en fait. Et franchement, ils ne sont pas très discrets quoi, sur Facebook. Ils pourraient... S'ils étaient un peu plus malins, tu vois, l'histoire d'Instagram avec les pubs, là, ils auraient pu me montrer la pub le lendemain, tu vois. Ah non, c'était dans les 5 minutes. C'était même pas très malin, parce que ça paraît évident que c'est par rapport à ce que je venais de dire. Et
bah, tu vois...
Ah ouais, en fait, c'est vraiment grossier, quoi. Si tu veux, ils nous...
Tu vois...
Comment on peut pas y croire, quoi.
Ouais, mais... Alors là, pour l'histoire du micro, ça, moi, j'ai jamais vécu ça, mais la démarche commerciale m'apparaît logique. Tu as un besoin... On t'affiche tout de suite la solution. Fait que, tu sais, l'aspect d'être malin dans 3 jours, c'est peut-être trop tard pour faire une vente. Fait que, le fait que Facebook t'affiche la publicité aussitôt que tu l'as, t'as comme un déclenchement d'achat, ça m'apparaît très logique. Maintenant, j'ai jamais vécu. J'ai plusieurs personnes qui m'ont leur rapporté ça, qui disent quelque chose, puis un seul coup après, sur Facebook, on voit de la pub, ou même sur Amazon, je pense. On me l'a rapporté à maintes reprises. Je l'ai jamais expérimenté, mais je peux comprendre la démarche de t'as un besoin, on t'affiche tout de suite la pub. Moi aussi, si j'étais dans, si je vendais de la publicité, je ferais tout pour que tu cliques dessus sur ma publicité aussi.
Mais après, si tu veux, si je faisais... En fait, c'est exactement comme la loi renseignement qu'on a eue en France, ou je ne sais plus quelle loi il y a eu sur la protection de la vie privée, c'est qu'à un moment, est-ce que tu aimes qu'on regarde au-dessus de ton épaule pendant que tu lis quelque chose? Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est, je parle dans une conversation privée à quelqu'un. Alors certes, mon iPhone est allumé. Il est ouvert sur Instagram. Mais pour moi, ce qui n'est pas normal, c'est qu'il y ait une écoute à notre insu. Si j'avais fait une recherche... magasin de bricolage sur Facebook ou sur Instagram, là ok, on peut me proposer de la pub parce que j'ai rentré une donnée par un geste volontaire, tu vois. Mmh. Alors qu'une écoute, alors que tu es juste dans une conversation privée chez toi, c'est là où ça me gêne. Après, je comprends très bien que le marketing existe, que quand on tape des recherches, on ait de la pub qui apparaissent. Tout ça, c'est du marketing du web, on sait très bien que ça existe. L'écoute des conversations, franchement, je trouve ça vraiment... c'est vraiment pas correct. C'est pas une méthode...
Ouais, c'est assez compliqué parce que, tu sais, Apple aussi, avec Siri, t'écoute constamment. C'est juste qu'il se déclenche quand tu dis le mot magique. Mais, tu sais, il t'écoute aussi... Alors, on pourrait aussi s'en inquiéter. C'est sûr que toute cette écoute... Tu sais, les gens qui n'ont rien à cacher, moi, j'y crois pas. Moi, j'ai quelque chose à cacher. J'ai toujours des choses à cacher. Et j'ai un verrou sur ma porte de mes toilettes. Alors, on a tous quelque chose à cacher, effectivement. Que ce soit sur ce qu'on écrit, que ce soit... Faut avoir les mesures pour se sentir protégé.
Et puis, même sans rien avoir à cacher, c'est juste le respect de la vie privée. C'est tout, quoi.
Oui, oui.
Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant comme sujet. Mais je pense que au fur et à mesure des années... il faut vraiment que Facebook, avec tous ses services, Instagram, etc., se fasse prendre la main dans le sac parce qu'on...
Ben, ils se le sont fait prendre, puis ça n'a rien fait. Ils s'excusaient, puis ça a fini comme ça.
Donc,
C'est la loi de l'autorégulation. Ouais, c'est ça. on va continuer. Dernière nouvelle que je voulais rapporter, on a de plus en plus des rumeurs qui sortent qu'Apple TV+, ne ferait plus juste de la production originale, mais ferait aussi comme Netflix, comme Crave, comme tous ces grands services-là, Prime, Hulu, ferait de la diffusion d'émissions déjà achetées parce que ils ont beaucoup de difficultés à suivre le pas et la COVID-19 n'a pas aidé. Ils ont beaucoup de problèmes à reprendre les enregistrements, notamment dans l'article que je vous ai laissé, The Morning Show. Ils ont beaucoup de difficultés à reprendre les enregistrements parce que ça prend toutes sortes de nouvelles façons de faire avec la COVID-19 pour enregistrer. Ça prend des gens qui sont en quarantaine, des acteurs en quarantaine, mais aussi les preneurs de son, les caméramans, les studios et ainsi de suite. Faut que ce soit désinfecté. Il y a des sas. J'ai écouté un producteur d'émissions télévisées qui expliquait un peu l'horreur de ce que c'est maintenant produire des émissions télévisées avec la COVID. Et Apple, ils sortent pas du lot. Ils ont aussi ces problèmes-là. Alors, c'est pour ça qu'on entend de plus en plus parler qu'Apple pourrait racheter certaines distributions, certaines films, certaines téléséries pour commencer à les présenter sur Apple TV+. Mais on se rappelle que il y a beaucoup d'exclusivité maintenant. Netflix signe des téléséries, mais aussi signe une certaine exclusivité à sa plateforme. Prime fait la même chose. On va voir ce qui va arriver avec Apple TV+, ça sent pas très bon, sachant que tous ceux qui achetaient ou qui achètent encore, je sais pas, tu pourrais me le dire, Audrey, une plateforme Apple, un iPhone, un iPad, un Mac, ainsi de suite, ont Apple TV+ gratuit pour un an, mais ça s'approche de la fin de cette promotion-là, et puis ça s'approche de la fin de l'année d'abonnement, je pense. Alors, on va voir ce que ça va donner pour Apple TV+, mais ça sent pas bon en ce moment pour la plateforme.
De toute façon, la COVID, comme tu dis, personne s'y attendait et forcément il y a des sociétés qui ferment, des services qui ferment. Ouais. Ça, c'est vraiment le truc que personne ne pouvait prévoir. Et s'ils doivent mettre Apple TV Plus en pause pendant quelques temps ou changer leur stratégie, je pense qu'ils le font. Après, c'est sûr que je pense aussi que tu vois, là on arrive à 4, 5, 6 services de vidéo à la demande et on a envie de voir un peu ce qu'il y a sur toutes les plateformes. Donc j'espère un jour qu'il y aura une plateforme où il y aura tout le contenu et qu'on payera même $15, tu vois. Parce que c'est vrai que mis à bout, on parle souvent de tous ces abonnements qui coûtent cher. Donc on verra, peut-être qu'ils ont testé et qu'après ils vont peut-être produire et vendre à d'autres plateformes. Est-ce qu'Apple TV Plus a vraiment besoin d'exister?
Ah oui, c'est vrai, c'est peut-être une autre façon, étant donné qu'ils prennent une commission sur les abonnements, peut-être que ça pourrait être une autre façon.
Ils peuvent devenir producteurs de contenu et être distribués sur d'autres plateformes.
Ouais.
Ça serait pas très grave, quoi.
Et parlant d'Apple TV+, parlant de vacances, est-ce que tu as eu l'occasion d'écouter le film Greyhound avec l'acteur, Tom Hanks, oui.
Non, c'était sur Apple TV+.
Oui,
ça?
Oui, je vous le recommande très sincèrement. Si vous êtes amateur d'histoire et surtout de la Deuxième Guerre mondiale, de voir comment ça s'est passé dans la mer lorsque les Alliés venaient ravitailler les Anglais, les Français, en fait toute la résistance, je vous le conseille très très fortement. Bon film. Produit par Apple, Apple TV+, avec Tom Hanks. Franchement, un beau 2 heures si vous aimez le style.
On va regarder ça. Ouais.
Aussi, dans les nouveautés, il y a une mise à jour d'un produit Apple. Ça va être le sujet de l'émission. Audrey, c'est quoi cette mise à jour qu'il y a eu d'Apple dans les nouveautés?
C'est la mise à jour des iMac, de la gamme iMac. Mm-hmm. Donc, ça tombait bien parce que j'attendais une petite perche comme ça pour pouvoir parler de ce produit dans Apple différemment, parce qu'on a abordé déjà pas mal de modèles Mac Mini, MacBook Air, etc. Donc, c'était bien de parler d'iMac. Donc là, c'était l'occasion. Donc, Apple a mis à jour ses iMac. Donc, rien de transcendant. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a plus de disque dur à plateau. Enfin. Mm-hmm. Parce qu'il y avait encore des disques durs à plateau, donc très lents, 5400 tours minute. Enfin, bref, c'était plus du tout possible aujourd'hui. Donc là, on a du SSD partout ou du Fusion Drive, mais on n'a plus la version qu'avec des disques durs. On a enfin des webcams en 1080p, Youhou!
Et ça, là.
Il était temps.
Ça, là.
Oh là là.
Et si vous
la révolution.
Ouais. Et si vous êtes intéressé d'utiliser votre iPad ou votre iPhone comme webcam avec le télétravail, vous pouvez le faire. Il y a une nouvelle compagnie. Je mettrai les liens dans les notes d'émission. J'ai un podcast où je parle des applications. L'application s'appelle Camo. Ça fonctionne du feu de Dieu et vous avez toutes les fonctionnalités de votre caméra qui, sur iPad, iPhone et les derniers, dernière génération, est vraiment meilleure que sur des vieux MacBook.
Mmh. Bah oui, c'est ça le problème. Mais même le MacBook Pro 16 pouces qui est sorti est avec une webcam en 720p. Donc, vu le prix de la machine, c'est un peu dommage. Mmh. Bref, donc là, on passe enfin en 1080p. Comme sur l'iMac Pro, d'ailleurs, il était équipé d'une webcam 1080p dès 2017. En entrée de gamme, on a toujours une mémoire vive à 8 gigaoctets. Mais on peut toujours la remplacer soi-même. Tu sais, il y a la petite trappe en dessous sur les modèles 27 pouces. Donc ça, c'est bien. C'est toujours une ouverture sympa. Et par contre, ben, les SSD, le stockage SSD, sont soudés. Contrairement au modèle d'avant, où on pouvait les remplacer soi-même au bout de quelques années. Enfin, soi-même. Fallait déjà être sûr de soi pour ouvrir un iMac. J'en ai déjà fait quelques-uns. C'est pas une mince affaire. Donc, mais en tout cas, c'était même remplaçable en Apple Store facilement. Donc là, c'est soudé. Donc pas de grande... Pas d'effet waouh, juste une mise à jour classique, on va dire, avec du mieux et puis du un peu moins bon. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle, puisque c'est l'occasion pour nous de vous parler de la gamme iMac depuis qu'elle existe.
Oui, qui a été très, très important, parce que dans le fond, l'iMac, ça représentait ben, le retour de Steve Jobs ben, au sein d'Apple. Au fait, quand il est revenu, c'était assez incroyable, cette machine-là, quand elle est sortie. Et puis, ben, dans la présentation initiale, il voulait vraiment refaire le coup de Macintosh à l'époque. Et puis, avec Jonathan Ive, il voulait faire quelque chose un espèce de wow effect. Je te laisse commencer, Audrey, avec cet épisode.
Ouais. Donc, comme vous allez le voir à travers ce dossier, cette gamme d'iMac, en fait, c'est assez marrant parce que donc depuis 1998, donc depuis 22 ans maintenant que l'iMac existe, le changement de processeur a toujours enclenché un changement de design. Et personnellement, je prends le pari, alors notez sur vos tablettes, je prends le pari que l'iMac sera le Mac, le premier à être équipé des processeurs Apple Silicon, donc qu'Apple devrait présenter en fin d'année ou début d'année prochaine. Et je parie également que ça sera l'occasion d'un nouveau design, parce que comme vous allez le voir, le design qu'on connaît actuellement est quand même là depuis plusieurs années, et il est vraiment temps que ça change.
Oui, oui, il est là depuis... Ben alors, on avait un petit débat, Audrey puis moi, tout dépendant de comment vous l'interprétez, il est là depuis plus ou moins longtemps, en fait, oui.
Oui, on va voir ça. Donc le premier iMac, il sort en mai 98. Clairement, c'est le digne descendant du Macintosh, hein, l'ordinateur de bureau compact où tout est dans l'écran. Contrairement à l'époque où la plupart des ordinateurs, c'était un écran et une tour, là, on a, comme sur le Macintosh, un tout en un, vraiment, où tout est dans l'écran. Ce qui a fait l'effet waouh, comme tu disais, c'était qu'il était en fait en plastique transparent. Mmh. Avec plein de couleurs, donc il y a eu pas mal de déclinaisons colorées. C'était un écran CRT, donc pour ceux qui n'ont pas connu cette époque, c'était les gros écrans
cathodiques. Ah ouais, ouais.
Voilà, écran cathodique légèrement arrondi sur le dessus. Hein. C'était pas les écrans plats ni au niveau de la dalle ni au niveau de l'épaisseur, hein, parce que c'était des gros bébés quand même. Et donc c'était quand même un écran de 15 pouces. Franchement, c'était vraiment il a vraiment une bouille à croquer. On vous mettra les images si on peut dans les notes de l'émission. Ouais, il y a eu plusieurs révisions, plusieurs déclinaisons, donc pour ce premier iMac jusqu'en juillet 2011. Donc c'était des iMac équipés d'un processeur G3.
Alors pour la petite histoire, le premier qui est sorti, c'est celui le Blue, et c'était le bleu vert en fait. C'était par rapport à la plage Blondie Blue d'Australie, et le nom de code à l'intérieur de chez Apple, c'était le projet Columbus. Comme Christophe Colomb, car ça devait représenter le nouveau monde libre de tout héritage. Alors c'est pour ça que Johnny avait appelé cet Apple, en fait cet iMac-là, ce nom de code-là, Columbus. Alors le premier, ça a été le vert, et après ça, il y en a eu plusieurs sortes de couleurs, comme dit Audrey. Alors, il y en a eu du blueberry, du... En fait, je vous dis les noms en anglais, mais il y a eu myrtille, il y a eu raisin, il y a eu mandarine, citron vert et fraise. Et pourquoi on appelait les couleurs des iMac par ces... en fait, par les fruits, c'est que Johnny Ive avait demandé de s'informer auprès des fabricants de bonbons pour obtenir les couleurs les plus aimées dans les bonbons pour pouvoir, ça c'est en 99 un peu, pour pouvoir savoir quelles seraient les couleurs les plus appréciées des iMac. Et ils étaient toujours classés, vous remarquerez, ça sera toujours ce classement-là, myrtille, raisin, mandarine, citron vert et fraise, parce que c'était en ordre de préférence des bonbons à cette époque. Alors... c'était assez intéressant de voir que le design prédominait toujours et a toujours prédominé à cette époque-là. Ça a été un beau défi dans ces années-là pour les ingénieurs, parce que le design a été choisi par Jonathan Ive, son équipe et Steve Jobs, et ça a donné lieu à plusieurs contraintes techniques. J'ai pas vu dans tes notes de l'émission, mais est-ce que tu parles que c'était en fait l'arrivée de deux affaires très importantes, en fait l'USB qui est arrivé avec l'iMac, et aussi l'abandon tout simplement de la disquette 3,5. C'est pas la première fois qu'Apple a abandonné des trucs. On a abandonné le lecteur de disque, on a abandonné la prise jack, on a abandonné plein de trucs avec Apple, mais c'est toujours avec un nouveau produit que c'est arrivé. Et puis ça a donné lieu aussi à des clones, évidemment, des affaires plus ou moins heureuses. Il y a eu des clones PC, il y a eu le e-Power, il y a eu le e-One, il y a eu le Pliché, des affaires complètement affreuses. Affreuses, pas vrai. C'était sensiblement des copies de l'iMac, mais quand même...
Tu l'as dit, c'est trop tard.
C'est ça, c'est ça. Alors, il y a eu les couleurs, puis il y a aussi eu des... de l'espèce de peinture, il y a eu une espèce de blue dalmatien, puis flower power qui est arrivé, qui était juste laid. Et lui, là, pour vrai, lui, j'assume, c'était affreux. C'était vraiment affreux.
Ouais, c'était plastique transparent avec des petits points bleus, et après un flower power, genre tapisserie fleurie. Ils étaient pas très bons. Ça dépend des goûts, on va dire ça.
Ouais, c'est ça.
Mais toujours dans ce design très arrondi, très acidulé, en effet, ça fait vraiment penser à des bonbons. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est que, je sais pas si tu te souviens, mais il y avait une pub avec une musique d'Elvis, je vous ai mis dans les notes de l'émission. Et c'est quand j'ai vu cette pub-là, je devais avoir, 98, 99, j'avais 17 ans. Et quand j'ai vu cette pub-là, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Parce que... Franchement, les ordinateurs à l'époque, c'était beige, c'était moche. Ouais. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais j'en veux un. Enfin, et en fait, ça m'a complètement subjugué, cette publicité, parce qu'il n'y avait qu'un ordinateur qui, comme si, en fait, il glissait sur un fond blanc. Tu vois, il tournait dans tous les sens. Il y avait la musique d'Elvis, et je me suis dit, mais c'est quoi cette boîte, quoi? Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser vraiment à Apple, à acheter des magazines et tout ça. Et c'est, pour moi, c'est vraiment un point marquant dans mon histoire, cette publicité. Donc j'espère qu'on les mettra dans les notes de l'émission. Et j'ai mis aussi plein d'autres pubs que vous allez, parce que c'était vraiment l'époque de la pub. Ils se cassaient vraiment la tête pour faire des pubs sympas, dont deux avec Jeff Goldblum. Et je sais pas si tu pourras passer, juste parce qu'en fait il fait que parler dans cette pub, et je sais pas si tu pourras intégrer ça dans l'émission, mais c'est vraiment sympa. Enfin, ça dure quelques secondes, hein, chacune une vingtaine de secondes, mais c'est vraiment sympa. Il explique comment envoyer un email avec un iMac et comment et pourquoi la couleur beige n'a pas été choisie par Apple, donc c'est assez drôle. Mmh. Il se fiche clairement de la concurrence, mais c'est quand même sympa. Puis il y a une autre pub aussi pour comment accéder à Internet en trois étapes avec un iMac. Donc, je vous laisserai découvrir tout ça, parce que c'est vraiment du foutage de
gueule. Ouais.
Mais c'est bon joueur, quoi.
Mais vous avez déjà demandé à quelqu'un quelle était sa couleur préférée? Je suis sûr que oui, qu'on vous a aussi posé la question. C'est pas une des questions les plus intéressantes, mais combien de fois avez-vous répondu beige? Jamais. Parce que c'est une des pires couleurs. C'est d'ailleurs à peine une couleur, c'est comme de l'avoine, du sable ou rien du tout. C'est beige, c'est ennuyeux, c'est insipide. Mais maintenant, les ordinateurs, mais pourquoi les gens qui fabriquent des ordinateurs n'ont jamais, jamais fait autre chose que du beige? C'est dingue. Est-ce qu'ils ont purgé une peine dans une prison spécialisée dans l'aliénation intellectuelle? C'est fou. Vous savez, c'est comme si dans quelques jours, il allait y avoir une grande fête. Tout le monde dit, quelle est ton adresse email? Quelle est ton adresse email? Eh, vous tous, je vais vous envoyer un email. Ah oui, mais j'ai pas d'email. De quoi s'agit-il? Voyez ce genre-là. Et vous vous sentez largué, perdu, c'est trop cher ou je ne sais quoi. Et dès maintenant, bonne nouvelle, il y a un ordinateur tellement simple qu'en quelques minutes, vous êtes sur Internet. Vous envoyez des emails à la Terre entière, vous faites partie de la fête. C'est aussi simple que disons, coller un timbre.
Ouais, notamment dans le nom, j'avais... pourquoi iMac? Pourquoi on l'a pris iMac? Parce que, ben, selon... Alors, il y a deux vents qui parlent de ça. Pourquoi le i? Alors, on à l'époque, on disait que i, c'était pour imaginer, instruire, inventer, intuitif et surtout Internet. Et puis à l'époque, aux États-Unis, on disait I think, therefore iMac. Tu disais je pense donc je Mac. C'était un peu, c'était un peu ça le modus operandi. Il y a des rumeurs qui disent que, étant donné que Steve Jobs à l'époque était intérim, il voulait mettre son titre sur chacun des produits. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Des fois, on me dit que c'est vrai, des fois pas. Je vous le dis quand même, c'est une rumeur que les produits ont commencé par i parce que Steve Jobs voulait mettre le terme intérim partout pour dire c'est mes produits à moi, je reviens chez Apple, c'est les i quelque chose.
Ah, moi j'ai toujours cru que c'était plutôt le jeu en fait.
Ok.
Je suis mon ouais. Mac, enfin c'est voilà, plus mon, c'est mon appareil personnel quoi.
Ouais.
Comme en face il y avait personal computer, ouais, il y avait PC et là, ouais. En fait, ensuite, donc cet iMac il a quand même été commercialisé pendant, ben pendant 3 ans, mm-hmm. donc de mai 98 à juillet 2001.
Mm-hmm.
Comme je disais, donc c'était les iMac G3. Et puis en janvier 2002, alors là, Apple présente un produit encore plus bluffant, j'ai envie de dire, parce qu'on passe à l'iMac à écran plat, qu'on nomme souvent d'ailleurs entre nous iMac tournesol,
oui.
Parce qu'il avait une tête complètement, son écran était complètement, comment on dit, mouvant, enfin pilotable, pivotant, je vais y arriver.
À un doigt, à un doigt.
Ouais, c'est ça. En fait, tu pouvais vraiment régler ton écran. Alors, attends, qu'est-ce que j'ai écrit? Il était vraiment, en fait, voilà, tu l'adaptais du bout des doigts, en hauteur, en profondeur, l'inclinaison également. Et pour moi, ça reste le plus bel iMac jamais créé. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais on est nombreux à s'accorder là-dessus. Et surtout que les composants étaient situés dans son pied arrondi. Et tout passait donc par l'espèce de bras articulé en fait qui soutenait l'écran. Et c'est vraiment, pour moi, c'est le plus beau Mac qui existe. Quoi.
Ça a pris 2 ans à l'équipe de Jonathan Ive à créer ce nouvel iMac. Et ça a donné des maux de tête aux ingénieurs, notamment pour tout ce qui est refroidissement. Parce que vous le verrez, le pied du tournesol, il y a des trappes, des petites ailettes en bas, mais aussi des petites ailettes en haut pour faire dissiper la chaleur. Et le pied qui tient l'écran, qui est un écran plat, c'est la première, on quitte les tubes cathodiques avec le G4. Pas tout à fait vrai parce qu'il y a eu une série, le E-Mac E. Avec un E, oui. Mac, pour éducation, qui avait un processeur G4. Mais le vrai G4, comme on parle, ça a été le iMac tournesol. Alors, il est arrivé en 15 pouces, si je ne m'abuse. Hein, c'est ça, Audrey, au début. Mais ça a rapidement monté à 20 pouces.
Oui, il y a eu des modèles 15 pouces, 17 pouces et 20 pouces ouais. Jusqu'en novembre 2003. Et c'est vraiment devenu un objet de collection. J'ai un client, d'ailleurs, qui en a un. Il s'en sert juste pour la musique, mais il fonctionne toujours et c'est... Enfin, moi, je rêve qu'Apple nous ressorte un Mac comme ça, quoi. Parce qu'en plus, tous les composants aujourd'hui prennent beaucoup moins de place qu'à l'époque. On n'a plus le lecteur CD comme il y avait à l'époque dans son pied, hein. Il y avait un lecteur CD. S'ils se sont autant cassés la tête sur ce design, mais qu'ils réutilisent, quoi. Ça serait
ouais.
trop bien.
Ouais, puis...
Ça serait vraiment trop bien.
Ouais, ouais, tout à fait. Puis c'est l'époque blanc hein, de Jonathan Ive. Jonathan Ive, depuis l'école jusqu'à le fait qu'il arrive chez Apple, a toujours préconisé le blanc. Il avait un petit peu gagné son point avec l'iMac, mais il l'a vraiment concrétisé. Le premier iMac, première génération avec tube cathodique, ceux qu'Audrey vous parlait juste avant. Mais là, il concrétise vraiment son rêve de faire un produit totalement blanc. Ça et l'iPod. C'est vraiment 2 produits signés Jonathan Ive. Alors, ça donne aussi le nouveau clavier, la nouvelle souris translucide, puis les nouveaux haut-parleurs. Tu te rappelles de ces haut-parleurs translucides, là, blancs? Tout rond.
Ouais, les petits haut-parleurs ronds, ouais. Avec un système propriétaire, il me semble, de branchement. Donc, on n'a pas pu les réutiliser après sur d'autres Macs. C'était un peu dommage. Mais ouais, franchement, c'était vraiment un super... Enfin, je l'ai utilisé, je ne l'ai jamais eu, malheureusement, mais je l'ai utilisé en entreprise et c'était vraiment un... Ce que j'adorais, c'était vraiment de pouvoir incliner l'écran comme on voulait, mais vraiment au millimètre, quoi. C'était vraiment un objet d'orfèvre pour moi. Je sais pas, c'était suivant le bureau que tu utilisais ou la chaise, tu le réglais comme tu voulais. Contrairement, justement... aux Mac qui ont suivi, aux iMac qui ont suivi après.
Au niveau ergonomie, il n'y a pas mieux hein, de pouvoir placer l'écran visible. Tu sais, au niveau de ta vision, il n'y a absolument rien de mieux que ça. Et on a ça un peu avec le nouveau pied à 1000$ du Mac Pro, mais ouais, effectivement, il est très très beau. Vous pouvez, il y a certaines personnes dans le marché usagé, vous pouvez retrouver certains tournesols pour pas très cher. Les gens ne connaissent pas encore la valeur. C'est le genre de produit que je peux vous conseiller d'acheter parce qu'il va gagner en valeur, c'est sûr, sûr, sûr. Moi, j'en ai vu aux alentours de 100€, 150€ au moins cher. Vous pouvez vous dire que d'ici une dizaine d'années, ça a minimum doublé. Et puis, si ça peut vous servir de station de musique, ben ça fait une chouette station de musique quand même. J'ai vu, et je pense que c'est toi qui l'avais tweeté, certaines personnes ont repris des tournesols cassés pour en faire des stands pour iPad. Est-ce que c'est toi qui as tweeté ça?
Oui, c'est ce que j'étais en train de... Ça me revenait à l'esprit. Oui, il y a des gens qui ont remplacé l'écran de l'iMac par un iPad. Et du coup, ça fait un iPad sur un pied hyper pilotable comme ça. C'était vraiment une chouette idée. Et du coup, en effet, même si l'ordinateur, le pied, les composants sont HS, on peut toujours se servir de la structure. Bon, je pense qu'il fallait pas mal de bricolage, mais c'est incroyable comme les produits Apple sont réutilisés par des gens très créatifs comme ça. C'est toujours des trucs que j'adore découvrir. Je trouve ça vraiment, vraiment super. Je voulais vous parler aussi d'une publicité. Donc, pour cet iMac, je pense que tout le monde l'a vu, mais c'est une publicité qu'on vous mettra bien sûr dans les notes de l'émission. C'est un gars qui passe devant une vitrine où il y a le nouvel iMac, donc l'iMac tournesol. Et le gars bouge un peu la tête et puis t'as l'iMac qui bouge son écran.
Ouais.
Tu vois de laquelle je parle?
Ouais, ouais.
Et du coup, en fait, il y a tout un jeu comme ça de mimétisme où l'iMac reproduit les grimaces, les gestes et tout du passant, et jusqu'à lui tirer la langue. Et puis là, je vous laisse découvrir ce que l'iMac fait pour lui répondre. On vous met le lien vers cette pub qui est franchement géniale. Et c'était vraiment l'époque des bonnes pubs.
Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est un peu la lampe, tu sais, qui fait Toy Story? Voyons, j'oublie tous mes... quelle est la
Pixar.
Pixar, c'est un peu la lampe qu'on aime bien de chez Pixar, tu sais, qui rebondit sur un ballon et,
ouais.
Et qui...
c'est ça, c'est un peu l'idée.
Ouais, c'est ça, exact.
Ensuite, en août 2004, oui. L'iMac a toujours un écran plat où tout est dans l'écran et non plus dans son pied. Donc là, on passe vraiment dans le tout-en-un ultra plat, enfin ultra plat. À l'époque, c'était ultra plat. Toujours en plastique blanc. Son pied est en aluminium et il a été décliné en 17, 20 et 24 pouces jusqu'en septembre 2006. Alors, c'est pas un iMac qui a marqué les mémoires.
Non.
Personnellement, je le trouve un peu commun, on va dire. Et puis, contrairement à son prédécesseur, bah, son écran ne peut pas du tout être ajusté en hauteur. Seule l'inclinaison verticale, on va dire, est possible. Et c'était les premiers iMac sous processeur Intel. Ils ne sont pas terribles, terribles. Les deux mémoires, il y a eu quand même des soucis techniques là-dessus. Je ne l'ai jamais utilisé, je crois.
Toujours PowerPC, hein, c'est ça? Est-ce qu'ils...
Non, là, c'était les premiers Intel.
Les premiers Intel, OK, c'est bon. Okay. Et c'est les premiers, je pense, qui avaient la télécommande. Est-ce que ça se peut, ça? Tu sais, l'espèce de télécommande blanche?
Oui, oui. Si, si, c'est vrai que c'était les premiers avec le capteur infrarouge. Et puis, il y avait FrontRow, c'était l'application... un peu comme un home cinéma où on pouvait voir nos photos, nos films. Ouais, c'était l'époque où on pilotait son Mac avec une télécommande, ouais.
Et c'est dans les premiers... Est-ce que c'est ce premier Mac-là? Non, c'est pas ce premier iMac-là. J'allais dire une bêtise, mais je pensais que c'était lui qui avait la première webcam, mais non, je pense pas que c'est lui.
Si, je crois qu'il y a eu une déclinaison de ce modèle-là avec webcam, certainement vers la fin.
Oui, en 2005, effectivement, c'est ça. En 2005, il y a eu une déclinaison avec la webcam puis la télécommande dont je parle, mais au lancement, effectivement, il n'y avait absolument pas ça. C'est seulement avec les évolutions. Et puis, ouais, c'est vrai qu'il était commun parce qu'il était très fixe. Hein. Tu sais, tu pouvais pas bouger, à part l'inclinaison de l'écran, tu pouvais pas l'ajuster comme le tournesol. Il n'y avait pas... Son pied, par exemple, c'était le premier pied en aluminium hein, qu'on voyait, je pense. Il était carrément... Il n'était pas en plastique, lui.
Ouais. Oui, c'était un pied en aluminium, ouais. Mais ouais, le problème, c'est ça, c'est que ben, même les iMac d'aujourd'hui ont hérité de ce fameux pied qui se monte pas, qui se descend pas, qui est fixe. Donc en gros, quand tu passes 8 ou 10 heures par jour sur un écran, c'est vraiment dommage de pas pouvoir le régler à la hauteur de tes yeux, comme les ergonomes le recommandent, quoi. Mais bon, ça reste un mystère. À croire que tous les gens chez Apple font la même taille, je sais pas. C'est... Ouais. Non, mais moi, je sais, parce que franchement, j'ai eu des gros problèmes de nuque ouais. à une époque, parce que je travaillais sur un iMac 27 pouces, qui était une superbe machine. J'en ai eu plusieurs au fur et à mesure des années, une machine hyper silencieuse, mais clairement, on mettait des livres en dessous pour les soulever, ou on devait monter notre chaise. Enfin, c'était... Franchement, niveau ergonomie, c'était pas top, quoi.
Non, effectivement. Effectivement.
Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce modèle-là ou...
Non, j'aurais des choses à rajouter, mais il est tellement anodin que je veux qu'on passe au prochain.
Donc, en août 2007, l'iMac aluminium, tel qu'on les connaît aujourd'hui, du moins quand on les regarde de face, quasiment, ils n'ont quasiment pas changé. Donc, toujours sous processeur Intel, ils ont évolué depuis 2007 en s'affinant. Mais le design clairement reste identique, il faut avoir vraiment un œil de geek ou de fanboy pour voir les différences. Et donc cela fait quand même déjà 13 ans que les iMac se ressemblent, et je pense qu'il est vraiment temps qu'Apple propose un nouveau design pour son produit. Pour moi, c'est le produit phare d'Apple, c'est l'iMac. Et donc l'iMac Alu a quand même été décliné en 4 tailles. Il y a eu du 20 pouces, du 21,5 pouces, 24 et 27 pouces. Et au niveau des évolutions techniques, on retiendra la disparition du lecteur graveur de CD-DVD en 2012. Donc là aussi, Apple était en avance sur son temps parce que en 2012, on utilisait encore pas mal de CD-DVD. Donc il y a beaucoup de gens qui ont râlé. Mmh. Et puis, surtout l'arrivée des écrans Retina en 2014. Donc moi, j'ai eu un iMac Retina à cette époque-là et franchement, c'était un vrai plaisir pour les yeux. Je pense qu'on ne peut pas faire marche arrière ensuite quand on a connu les écrans Retina. Et Apple a présenté un iMac Pro en 2017, mais c'est un iMac à 5000 euros. À part les professionnels de l'image, justement, je sais pas qui peut s'acheter ça, mais bon, pourquoi pas. Et comme je disais, ouais, voilà, j'ai eu plein de modèles d'iMac au fil des années, et c'est vraiment une des machines les plus silencieuses que j'ai pu utiliser. Même quand on lui demande des gros calculs, de montage vidéo et tout, ça reste très très silencieux. Alors toi, tu m'as dit un truc, c'est que tu m'as dit non, en 2012, ils ont changé le design.
Ouais, alors là, c'est le débat. Est-ce que Audrey a raison ou moi j'ai raison par rapport au design? On sait que en 2007, il y a eu l'unibody. L'unibody, c'est le principe de faire un boîtier en aluminium. Ouais, tout en un en aluminium. Les premiers en 2017 avaient le dos en plastique noir. Et c'est vraiment seulement en 2012, si je ne m'abuse, où ils ont été complètement en aluminium. En 2012 ou en 2009, qui étaient complètement en aluminium. Non, c'est ça, c'était en 2012. Alors, est-ce que l'iMac avec le dos en noir, on peut le considérer comme le même iMac en ce moment? C'est vous qui allez nous le dire. Mais...
Regarde les notes de l'émission. Je t'ai mis l'iMac de 2007 et l'iMac de 2012 vu de profil.
Ouais, t'as raison.
Alors, clairement, oui, celui de 2012 est beaucoup plus fin. Son dos est arrondi et est en alu. Pour moi, c'est pas une grosse révolution de design. Tu vois, quand tu vois toute la gamme depuis 22 ans,
ouais.
Tu te dis, ouais, ok, les coins sont moins arrondis, il n'y a pas le tout petit tour en alu, maintenant on a vraiment le verre en bord à bord, et puis, bon, clavier souris sans fil. Mais pour moi, tu vois, s'ils nous ressortent un iMac sous Apple Silicone avec ce design-là, je vais dire, ils se sont pas foulés, quoi. Johnny revient, parce que... tu vois, bon, je pense que c'est quand même lui qui va faire les produits d'Apple, mais j'espère qu'il va se passer quelque chose. Ça va remettre un peu le feu, là, dans le design d'Apple, parce que même les MacBook Pro et tout, c'est un peu plan-plan, quand même, depuis quelques années, et Apple, c'est quand même une boîte qui met en avant le design depuis toujours, et j'espère sincèrement qu'ils vont... Et qui vont nous donner une petite claque là à la fin de l'année pour qu'on ait envie d'acheter des iMac.
Ben, ils l'ont fait pour le Mac Pro. En fait, le design du Pro a changé plus souvent que l'iMac, et même le Mini a pas changé autant souvent, je pense. Mais le Pro a changé plus souvent que les, et pourtant c'est destiné à une à une quantité de fabrication moindre, et pourtant, lui, il a changé plus souvent ces dernières années que le iMac, effectivement. Le Pro, l'iMac Pro, moi, je l'ai trouvé chouette parce que ça arrivait avec une nouvelle couleur de clavier, une nouvelle couleur de souris, de trackpad. C'était un peu plus dans l'air du dark mode. Et lui, je l'ai bien aimé. C'est vrai, quand on regarde la photo dans les notes de l'émission d'Audrey, c'est pas transcendant la différence entre 2007 puis 2012. C'est un centimètre ou deux d'épaisseur, mais après ça, tout le reste est sensiblement pareil. Ouais, t'as raison que ça fait bien longtemps.
Franchement, moi, j'ai eu les deux. Donc 2007, tu pouvais mettre ton CD, ton DVD. 2012, tu pouvais plus. Mais sinon, quand tu l'as en face de toi, franchement, c'est pareil quand tu travailles. Par contre, quand tu travaillais sur un iMac tournesol, ben, tous les jours, tu faisais « Waouh, c'est beau !» Et voilà. Et moi, j'espère, et je peux te dire que je voudrais qu'Apple nous remette à la fois du design et du utile, tu vois, dans l'utilisation des produits. Mmh. Parce que rien que pouvoir régler l'écran de ton ordinateur, ça fait partie des choses utiles au quotidien. Et qui font que ben, le prochain, tu reprendras le même parce qu'il s'adapte à toi, tu vois. C'est pas toi qui dois t'adapter à lui. Et ça, ben, avec les iMac d'aujourd'hui, ça manque.
Ouais, t'as raison. Même, je pense qu'on peut... Le nouveau clavier de l'iMac, du iPad, je veux dire, on peut l'incliner lui-même, mais pas en hauteur. Est-ce qu'on peut l'incliner en hauteur, le nouveau?
Non.
OK.
Non, justement, j'ai pu... Ben, tiens, ça tombe bien que t'en parles parce que je voulais dire que je l'avais testé quelques heures chez un client. Alors, c'est sûr que donc on parle du Magic Keyboard pour l'iPad Pro.
Ouais.
C'est celui-là,
donc. Oui, c'est exactement. Ouais.
Ok. Alors, j'ai été un peu déçu par la qualité parce que clairement les touches, c'est quand même un truc en plastique, quoi.
Ah bon, allez débat. Parce que ceux qui l'ont dans mon entourage ne jurent que par ça, et on voit même des photos de setup de bureau, les gens ont plus rien, juste un iMac, c'est tellement épuré. Moi, j'ai eu le même ressenti que toi en Apple Store quand j'ai pu toucher un petit peu. J'ai fait mon Dieu, ça a pas l'air d'être un produit très qualitatif.
Voilà, et c'est exactement le ressenti que j'ai eu, c'est que je me suis dit combien il coûte déjà? 350 €?
Oui.
Je me suis dit, attends, c'est un clavier, il n'est même pas de la même qualité pour moi que le Magic Keyboard de bureau classique,
ouais.
Qui en a lu certes, mais qui n'est pas forcément plus lourd. Donc oui, tu peux incliner l'écran, mais que à la verticale. Donc tu ne peux pas l'incliner à l'horizontale. Tu as quand même le port USB-C en plus, mais le clavier en lui-même et le trackpad, je me suis dit, putain, c'est du plastique. Qu'est-ce que ça va donner dans 3 ans? Est-ce que ça va se casser? Est-ce que... Pour moi, il aurait été bien, ouais, s'ils avaient vendu ça 100 $, quoi. Pour moi, le prix est vraiment exorbitant, même si, ouais, c'est cool, tu aimantes. Ben oui, mais bon, quand il est sur son truc, on va pas l'enlever et le remettre 10 fois dans la journée, tu vois. Enfin, j'étais déçue. Franchement, je crois que c'est la première fois que je me retrouve face à un produit dont les gens trouvent ça génial, et moi je me suis dit ben merde, je comprends pas, j'ai pas compris le produit au niveau de sa finition. Pour moi, il manque la petite touche Apple, quoi.
Ben, tu sais que de l'autre côté, chez Surface, t'as un clavier, une espèce de clavier en tissu lui aussi. Les touches sont en plastique dur, mais par contre, tout le reste est aussi en tissu et ça vieillit très très mal. C'est une espèce de tissu plastifié, j'arriverai pas à le décrire, un peu de la feutrine, et ça vieillit excessivement mal. Je sais pas ce que ça va donner pour un iPad Pro, ce clavier-là. Bon, d'aucuns diront que ce clavier-là est pas destiné vraiment à la mobilité. C'est vraiment plus, tu le mets à quelque part, à un endroit où tu vas faire du clavier souris, et quand t'es en mobilité, tu gardes ton iPad sans ce dock-là.
Ouais, mais sans coque, du coup.
C'est ça, exactement. Exactement.
C'est ça le problème, c'est que moi, j'utiliserai pas mon iPad Pro, même dans le canapé, sans une coque, sans un, là, j'ai un smart cover, j'utiliserai pas sans ça. Enfin, si les gens me disent ça, je dis, bah ok, du coup, j'achète un petit stand juste pour le poser et je laisse mon clavier souris sur le bureau.
Oui.
Tu vois, c'est.
Ouais. Puis
et en plus, je l'ai essayé sur c'était un grand iPad Pro, un 12,9 pouces,
ouais.
Et je trouvais le trackpad vraiment très petit. Et je me suis dit, mais alors la version 11 pouces, ça faisait un peu jouer, quoi, tu vois, ouais. Je crois qu'on va se faire des ennemis. Tu sais.
Je pense qu'on s'enligne pour se faire des ennemis dans cet épisode-là, mais ouais, nous allons...
C'est notre point de vue.
Nous allons nous assurer de continuer à dire qu'on trouve que c'est pas très joyeux. Puis j'ai vu dans le test de Mac Forever où ils prennent justement ce clavier-là sur les genoux dans le salon et il y a un effet de basculement qui fait qu'il est instable. Tu sais, la minute que tu touches, ça a l'air à lever par en arrière. Tu sais, il faut vraiment maintenir tes mains pour pas que ça lève. En tout cas, ça a l'air plus ou moins heureux en mobilité. Et comme tu dis, si c'est pour se payer un truc qu'on ne sert jamais en mobilité, autant avoir un bon clavier avec un bon vrai trackpad qui va fonctionner comme il faut. Pour le même prix, je pense quasiment en plus. Hein.
Oui, même si tu comptes un Magic Keyboard de bureau et puis un Magic Trackpad, tu en as pour 200 euros. En sachant que tu peux les utiliser avec ton Mac aussi. Parce que là, tu vois, c'est aussi un produit où je me dis, dans 5 ans, tu changes d'iPad. Rien ne nous garantit que ça sera le même format et qu'on pourra l'utiliser sur les prochains iPads. Donc en gros, tu mets quand même 350 euros dans un accessoire. Enfin, tu vois, c'est très bizarre en fait, parce que quand ils l'ont présenté, j'ai fait le calcul sur Twitter, je me souviens, j'avais eu pas mal de retweets et tout, de réactions, où j'avais additionné un hub USB-C, un clavier, une souris, un trackpad et une smart cover. Et on arrivait dans les 350 euros. Donc je pense que c'est ce calcul-là qu'Apple a fait pour justifier le prix. Et ça aurait été totalement différent si y avait un effet « waouh, c'est un beau produit, il est agréable à utiliser ». Voilà. Et là, le côté plastique, ça m'a vraiment... Je me suis dit « ouais, en fait, ça vaut pas ce prix-là pour moi ». C'est encore une fois mon point de vue, mais... Ça m'étonne pas que tu aies eu le même ressenti.
Ben je me méfie du plastique à l'usage souple, hein, on va dire ça comme ça. À l'usage, soit les touches de frappe, ça vient qu'à casser. J'en ai vu les autres smart cover là, des premiers iPad Pro. Tu sais, ceux-là que tu savais pas trop comment plier. C'était assez compliqué à plier. J'en ai vu beaucoup d'user prématurément. Ce que je considère prématuré, c'est-à-dire en le dedans de 3 ans usé. Bon, encore là, ça dépend de l'usage des gens. Effectivement, on peut remettre ça en question, mais je trouve que 3 ans pour un clavier, c'est pas encore beaucoup. Ouais. Ce qu'on n'a pas dit aussi, par rapport à... Si je reviens au iMac, parce qu'on a deux polémiques. Hein. On a la polémique du 2017-2012 du iMac, puis on a une polémique du Smart Cover, le nouveau Smart Cover de l'iPad Pro. C'est que c'est aussi pas réparable, je pense, le Smart Cover de l'iPad. Là. Comme...
Le Magic Keyboard.
Magic Keyboard, excuse-moi, le Magic Keyboard. Reprenez ce que j'ai dit tantôt, les polémiques. Le Magic Keyboard et iMac 2017.
De toute façon, tu as la garantie de 2 ans. Enfin, en Europe, on a la garantie de 2 ans. Donc, à mon avis, ils te le remplacent directement s'il y a un problème. Après, je pense que si, tu peux quand même faire enlever une touche et remplacer une touche simplement. On n'est pas justement dans le keyboard d'avant qui était, comme tu disais, sous un espèce de feutrine où là, ça s'ouvrait pas du tout. Donc, je pense qu'il est plus réparable. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, ce qui me freine, c'est le côté... En fait, c'est très bizarre parce que moi, je suis une grande fan du Magic Keyboard de bureau. J'ai un modèle sans pavé numérique. Et en fait, le côté alu et plastique, je trouve que c'est vraiment un très bon mélange. Par contre, quand on est en 100% plastique, j'étais déçue, quoi. Bon, on peut en parler des heures, mais j'étais déçue par ce côté plastique où je me suis dit, ils ont même pas pris un plastique un peu, tu vois, un peu robuste ou quoi. Là, ça fait vraiment, ça fait un peu dinette, quoi.
Voilà. Enfin, alors on a.
Bravo Audrey.
On a deux polémiques plus. Tu nous fais une. Tu penses toi que en plus bientôt.
Je fais un pari.
Tu fais un pari qu'à l'automne on revient à l'iMac. À l'automne on va changer de design. Tu l'espères et en même temps tu paries qu'on va changer de design.
Ouais, fin d'année. Hein. Je sais pas si ça sera à l'automne, mais je sais pas. Peut-être que ça sera en 2021. Mais pour moi le premier Mac sous Apple Silicon. Je pense que ce sera un iMac pour différentes raisons. En fait, déjà, c'est un Mac grand public. Oui. L'iMac, ça a toujours été le Mac de tout le monde. Je ne pense pas qu'ils vont faire... Beaucoup de gens disent que ça sera un MacBook Pro, mais quel professionnel va prendre le risque de changer de machine avec un nouveau processeur, etc., un Apple Silicon, enfin, c'est un peu risqué, j'ai envie de dire, quand c'est ta machine de production.
Ouais.
Et c'est un très bon terrain d'entraînement, une machine grand public, parce que s'il y a un problème avec ces nouveaux processeurs, bon, je pense pas du tout, mais les particuliers sont quand même moins enclins à râler après Apple si leur machine est immobilisée 3 jours, ou voilà, plutôt qu'un professionnel qui en a besoin tous les jours.
Ouais.
Et surtout, tu vois, toute l'histoire qu'on vient d'expliquer de l'iMac, ben, ça prouve que le changement de processeur, à chaque fois, a engendré un changement de design. Donc, comme Apple est une entreprise assez fidèle, et que la formule marche bien depuis tout ce temps, voilà mes arguments pour.
Écoute, j'espère qu'on va avoir une nouveauté de ce du côté du design. J'espère qu'on va aussi voir quelque chose qui va nous émerveiller, comme dans le temps de Johnny Ive. Toi, tu penses que Johnny Ive est dans les parages s'il y a un nouveau design? C'est ce que tu as comme dit tantôt?
Ouais, apparemment, il est maintenant à son compte, on va dire, il a sa société, mais Apple fait partie de ses clients. Donc, je sais pas trop. Je pense qu'il avait envie de faire autre chose, genre du design pour d'autres produits. Mais je pense qu'Apple reste son client principal, ouais.
Bon, alors on va voir si tout se réalise dans tes prédictions et dans les jours à venir. Moi, je voulais relayer une actualité qui est passée. Je te l'ai relayée à toi, tu l'as relayée sur Twitter. En fait, Apple a annoncé que d'ici 2030, ils souhaitaient... Tu sais, c'est la pause réflexion un peu écologique qu'on fait à la fin des émissions, toi et moi.
Mm-hmm.
A annoncé que d'ici 2030, tous les produits seraient carboneutres. Et puis je cite le communiqué de presse. Nous créons les produits les plus novateurs au monde à l'aide de matériaux recyclés et bientôt nous fabriquerons tous avec de l'énergie propre sans empreinte carbone. Bien des gens croient que c'est impossible. Nous pensons autrement. Et tu vois, j'ai retweeté ça, tu l'as retweeté, on était assez contents de ça et j'ai été un peu refroidi. Alors, si vous êtes intéressé par rapport à cette annonce-là, au fait que on parle de carboneutre, on parle de sans empreinte carbone, j'ai dans mon émission, dans mon podcast personnel, l'éclectique, j'ai eu une émission de 2 heures avec Mathieu Blanco où on a parlé justement de ça et on explique pourquoi on peut pas être carboneutre. Et puis on peut pas ne pas avoir d'empreinte carbone la minute qu'on fabrique quelque chose. On a aussi dit que dans l'émission Apple il en faisait beaucoup plus que les autres compagnies par rapport à l'écologie, mais c'était quand même encore petit par rapport à la grandeur d'Apple. Alors je vous invite à aller écouter cette émission là. En gros, Audrey, on peut pas dire que on crée un produit qui n'a pas d'empreinte écologique parce que de la minute qu'on crée quelque chose, on a une empreinte écologique. Ça, on peut pas dire on est carboneutre en disant on fabrique quelque chose qui pollue, mais de l'autre côté, on va planter des arbres. C'est un peu bizarre comme façon de penser pour des écologistes. Alors,
je suis pas entièrement d'accord parce que si tu... Enfin, tu sais, la nature, c'est vraiment une question d'équilibre.
Oui.
Donc, si Apple... Alors, je dis des chiffres complètement faux, mais si Apple produit 2 tonnes de CO2 pour fabriquer des AirPods, mais qu'elle économise 2 tonnes de CO2 en changeant des choses dans ses usines ou en mettant en place de l'énergie verte comme elle le fait déjà, ou elle, en fait, son équilibre, pour moi, c'est une question d'équilibre. C'est-à-dire que, OK, on est forcément obligé de polluer parce qu'on produit des choses, mais par contre, la pollution qu'on aurait dû émettre, on ne la pollue, on ne l'émet plus. Donc en fait, ça recrée un équilibre, et parce qu'à ce moment-là, si tu veux même respirer, ça produit du CO2, donc on peut pas, tant qu'on existe, tant que les humains et les animaux et même les arbres, tant qu'on existera, on génère de la pollution. Moi, je trouve ça vraiment, même si, encore une fois, c'est un peu, on rêve un peu qu'une entreprise produise des produits qui ne polluent pas du tout, c'est clairement impossible, tu vas faire tes courses, tu pollues, je trouve que c'est un peu un jugement un peu dur en fait, que j'ai pas écouté votre émission, mais que d'après ce que tu me dis, je trouve que c'est un jugement un peu dur pour une entreprise qui pourrait très bien dire, mais on en a rien à foutre de l'écologie, nous on veut juste faire du fric. Personne n'oblige Apple à faire à faire de l'écologie et à se battre pour ça. Enfin, même Greenpeace reconnaît que leurs produits sont quand même les moins polluants. Enfin, il y a quand même plein de choses. Donc, ouais, c'est un peu...
En fait, vous allez écouter l'émission, faut mettre ça en perspective, c'est que dire qu'on est carboneutre, tu sais, affirmer qu'on est carboneutre ou que l'aluminium étant tellement entièrement fait d'aluminium d'énergie propre, faut lire les petites lignes. C'est ce que Mathieu me disait, faut lire les petites lignes. C'est pas tout est vert, tout est beau. Il y a des nuances, il y a beaucoup de nuances à faire. Mais ce que disait Mathieu, effectivement, c'est que, ben oui, Apple, c'est celle-là qui en fait beaucoup plus, même si pour un écologiste, c'est pas encore assez. Elle en fait quand même beaucoup plus que les autres. Alors ça, on peut juste s'en féliciter. Ce qu'on est revenu, puis qu'on est assez d'accord là-dessus, c'est que les produits Apple sont faits pour durer plus longtemps que certains autres, notamment de par le logiciel qui va être maintenu plus longtemps, la sécurité, les mises à jour et ainsi de suite, le fait qu'ils soient plus robustes, mieux faits. Il m'a aussi parlé de back market. Si vous voulez avoir des produits recyclés Apple, il semblerait que c'est un endroit assez chouette. Il y a comme on le dit tout le temps avec Audrey, il y a tout ce qui est refurbished, produits de recyclés d'Apple sur la section Apple. Mais si vous voulez trouver des fois peut-être un peu moins cher, avec un niveau d'usure que vous pouvez sélectionner, il y aurait le site backmarket.fr, je pense, qui le fait aussi. Alors, il recommandait ça. Mais oui, clairement, Audrey, de la minute qu'on fait quelque chose, on pollue et si on fait rien, il n'y aurait rien. Effectivement, je suis très, très d'accord avec toi. Et Mathieu, on était d'accord aussi.
C'est comme les gens, si tu veux, qui vont te dire « Ben non, moi, je tripe à mes ordures, ça ne sert à rien. »
Ben non, c'est ça.
Tu vois, moi, j'en connais des gens qui me disent ça. Ouais. Et je me dis « Ben oui, mais si toutes les entreprises du monde faisaient comme Apple, si toutes les entreprises avaient les mêmes objectifs et si tous les gens, au quotidien, faisaient un petit geste, tu vois, c'est l'effet colibri. Enfin, on y revient toujours, mais... Si chacun fait un petit geste, au final, ça compte, tu vois. Et voilà, ma réflexion du mois, ça va être ça. Soyez un petit colibri. et si vous ne connaissez pas l'histoire du colibri, on vous la mettra aussi en lien dans l'émission, dans les notes de l'émission. Parce que c'est... Je pense que franchement, ouais, s'il y avait des obligations environnementales que les États mettraient en place pour les entreprises, ça changerait. Regarde le confinement, ça a été la démonstration la plus flagrante qu'on peut faire baisser le niveau de pollution. Dans les villes, ça a été incroyable.
Ouais, je suis assez critique par rapport à ça parce que on n'a jamais vendu en Amérique du Nord autant de camions que depuis le déconfinement. C'est-à-dire qu'au prorata, avant le confinement et après confinement, je pense que c'était 4 ou 5 fois plus de camions, tu sais, les gros pick-up. Toi, t'appelles ça les éclaircies. Pas les éclaircies,
les éclipses.
Les éclipses. Tu sais, quand tu passes à côté de toi, c'est une éclipse. C'est tellement une image que je dis ça à tout le monde quand on m'en parle. Ouais, c'est ça. Alors, je suis un peu mitigé en Amérique du Nord. Je pense que on comprend pas beaucoup de trucs. Peut-être qu'en Europe, vous avez plus cette instinct-là au niveau de l'écologie, mais en tous les cas, en Amérique du Nord, c'est catastrophique.
Je pense que c'est vraiment... Toi, tu l'as, parce que je pense que c'est une question d'individu et pas de nationalité. Je pense qu'on est tous plus ou moins, peu importe d'où on vient, soit on est... soit on a conscience de notre impact écologique, de notre pollution, etc., soit on s'en fiche complètement, mais je pense pas que ce soit plus un pays qu'un autre. Après, moi, clairement, c'est sûr que quand j'achète des produits Apple, je sais que ça émet de la pollution. Mais je sais aussi que c'est des produits, comme vous avez dit avec Mathieu, qu'on va garder plusieurs années. Là, mon MacBook Pro, voilà, ça fait 3 ans que je l'ai. Et il marche toujours aussi bien qu'au premier jour. Donc, pourquoi changer? Tu vois, après, c'est de la responsabilité individuelle de se dire « je change de téléphone ». Enfin, on en a parlé souvent et longuement dans Apple différemment, à savoir est-ce qu'il faut changer d'iPhone tous les ans. Donc, chacun, je pense, a sa vision. Il y a aussi les gens qui sont passionnés par Apple et qui veulent avoir le dernier produit, mais d'un autre côté, qui vont être très attentifs à à la pollution qu'ils émettent ailleurs. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment de... Au début, j'étais un peu... Tu vois, quand on a commencé le podcast, j'avais un peu râlé en disant « Ouais, changer d'iPhone tous les ans, c'est irresponsable. Enfin, il n'y a pas vraiment besoin et tout. » Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Mais si c'est notre passion, on a le droit
de
le faire. »
Ouais.
Enfin, et voilà, et c'est quelque chose qu'aujourd'hui j'admets et que je comprends, et ça ne fait pas pour autant passer ces gens-là pour des gros pollueurs, ou voilà, c'est une question d'équilibre. Tu peux très bien te dire, je roule en diesel, mais je change d'iPhone que tous les 5 ans. Et de l'autre côté, tu auras quelqu'un qui roulera en électrique mais qui changera d'iPhone tous les ans. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, on revient à cette espèce d'équilibre qu'il faut avoir face à soi-même. Et après, bien sûr, les entreprises, c'est pareil. Il faut toujours essayer de trouver le bon équilibre. Et on verra ce que ça donnera pour le carbone neutre d'Apple. Je suis sûre qu'ils nous feront des beaux comptes rendus, des beaux chiffres, parce qu'en général, quand tu regardes les rapports sur l'environnement qu'ils font sur leurs machines, c'est assez hallucinant. Hein. Ils te mettent le poids de l'aluminium, le poids du verre, est-ce qu'il a été recyclé.
Ouais.
Enfin, c'est assez... Ils sont vraiment engagés, quoi. Donc, espérons qu'ils y arrivent. Et puis, on pourra de toute façon en reparler dans un prochain épisode.
Ils font de la très bonne communication, effectivement, sur le sujet. Moi, j'ai deux coups de cœur, Audrey, avant de terminer. Site web que j'ai découvert et qui m'aide beaucoup pour Apple différemment s'appelle aventure-apple.com. Je ne sais pas qui est en arrière de ça, mais c'est un très bon site au niveau de l'histoire de la marque, au niveau de l'histoire des produits. Et mon deuxième coup de cœur, c'est mon livre d'été. J'ai acheté ça et je suis vraiment content. Si vous voulez connaître un peu le personnage, c'est pas la bio, mais c'est l'histoire de Jonathan Ive, le génial designer d'Apple, où on apprend d'où Jonathan Ive est arrivé. On apprend que c'est une personne dyslexique. On apprend que plein de trucs. Son père a été ultra passionné. Alors pour ceux qui, au niveau de la parentalité, vous pensez que vous n'avez pas un gros rôle à jouer, ben si Jonathan Ive serait pas Jonathan Ive si son père avait pas fait tout ce qu'il a fait dans sa vie. Alors je vous conseille franchement de lire. C'est touchant par moments, puis très très bien pour ceux qui aiment l'histoire. Et puis, attendez pas qu'il meure pour le lire. Il est très bon, le livre de Jonathan Ive. Dis-moi, Audrey, si on veut te suivre pendant... parce que je sais que pendant tes vacances, t'as préparé des vidéos, t'as préparé plein de trucs qui vont sortir automatiquement, même si t'es en vacances. Alors, si on veut suivre tout ça, rien manquer de tes vidéos, on peut faire ça où?
Eh bien, j'ai programmé tous mes tweets aussi pour les 9 vidéos que j'ai programmées pour août. J'ai bien bossé en juillet à fond là pour proposer tout ça. Clairement, c'est aussi des tests hein, pour savoir si ma chaîne progresse un peu plus vite, si je mets plus de vidéos. Voilà, je suis en train de voir ce que ça va donner. En tout cas, la communauté continue à grossir, donc c'est cool. Donc, vous pouvez me suivre sur Twitter, @AudreyCoulot, et sur ma chaîne YouTube. Vous tapez Audrey Coulot dans le moteur de recherche de YouTube, vous tomberez sur ma chaîne. Et toi, Matt, on peut te suivre où?
Ben, profduweb.com, mes podcasts sont tous énumérés là. Et ben, comme je vous dis, peut-être si vous êtes intéressé par le sujet de l'écologie, puis d'Apple, puis ce qu'ils en font, peut-être aller écouter le dernier épisode hors série que j'ai fait de Éclectique. Ça pourrait être intéressant d'en débattre dans les notes de commentaires, en fait sur Twitter, parce qu'il n'y a plus vraiment de notes d'épisodes dans le nouveau format qu'on a d'hébergement. N'hésitez pas à commenter et à retweeter et à mettre un 5 étoiles et à visiter le podcast et à aller sur le site de Audrey Coulot. Hey, 12 300 abonnés, ça va vite maintenant, Audrey. Tu vas vraiment être une influenceuse. Là, tu n'es plus nano-influenceuse, je te l'annonce. Tu as une autre catégorie une fois que tu dépasses les 10 000. Alors, félicitations.
C'est vrai?
Ouais.
Bah, écoute, je suis contente parce que ça continue à progresser et puis c'est une belle aventure. Et c'est agréable de faire ce qu'on a envie quand on a envie. C'est chouette. Et les gens sont très, très positifs dans les commentaires. Parfois, il y a des commentaires assez drôles, assez violents parfois, mais c'est YouTube, hein, c'est la loi du web. Mais en tout cas, ben, on se retrouve en septembre, nous, sur Apple différemment.
En septembre avec, je vais me préparer un vrai dossier sur quelque chose plus long et je ne vais pas juste laisser Audrey travailler. Allez, salut tout le monde. Ciao, ciao.
Salut, à bientôt.